Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le vendredi 5 juillet. C'est un jour un peu particulier, un jour d'au revoir.
Comment te dire adieu?
Céline Dacosta.
Ouais, non, mais je pleure, Céline Dacosta.
Écoutez, cette chanson, c'est pour vous, regardez, écoutez. Je savais que ça allait marcher. Vous savez quoi, c'est des larmes de joie et on en a eu depuis le mois de septembre, des éclats de rire et des fous rires. Je mesure la chance que j'ai eu de vivre cette saison à vos côtés, on ne se connaissait pas et je ne regrette pas de vous avoir connu, évidemment. Donc, je veux pour aujourd'hui un immense soleil sur la météo. Vous êtes obligés. Non, mais pleurez pas. Non, mais ne pleurez pas tout de suite. Il est 4h58, vous ne pouvez pas pleurer maintenant, en fait.
Mais oui, non, mais j'avais pas prévu. Il va faire très beau aujourd'hui.
D'accord. Bon, ben, c'est pas mal. Ciel bleu ?
Oui.
Très chaud ?
Oui.
D'accord, ok. Buvez un coup. Elle aussi, elle a été mon rayon de soleil quotidien et c'est grâce à elle que Debout les copains vous a apporté votre dose d'informations. Anne Le Gall, je suis très heureuse de passer ce vendredi avec vous, moi aussi.
Bonjour Eva, bonjour à tous. C'est partagé, évidemment.
Bah ouais, et je sais bien, mais c'était une chouette aventure. Alors, est-ce qu'on a quand même une question pour les auditeurs ce matin?
Nous avons une question pour les auditeurs. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année scolaire et les résultats du bac tombent également aujourd'hui. L'école est finie. Alors, racontez-nous quels sont vos meilleurs souvenirs de fin d'année scolaire. Oula. On attend vos réponses sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Les gâteaux et les jeux de société à l'école primaire, c'était trop bien. Allez, j'en profite pour vous remercier pour tous vos messages au cours de l'année. Il n'y a pas eu un matin sans vous, avec un noyau de fidèles, d'autres qui sont venus se greffer au fil de la saison. On n'a pas pu relayer tous vos tweets, mais sachez qu'on les a tous lus, même les méchants, les très méchants. On termine cette année entier et entière, ou presque. Hein. Parfois, je me dis que c'est un miracle, peu de sommeil, beaucoup de travail, et un patron surtout complètement zinzin. Mathieu Noël, si tu nous entends, parce que je sais que tu es en partance pour le Mont Blanc, tu es dingue, mais vraiment dingue.
C'est parti. Wouhou. J'adore Gilbert Montagné. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore Harrison Ford.
Oh, ça me plaît.
Mais oui, moi aussi.
Rendez-nous Christine Bravo. Le temps passe, les œufs durs.
Et ce rire que j'aime tellement, alors heureusement il est allé s'oxygéner le cerveau au pied du Mont Blanc, je crois qu'on peut débuter sans crainte. À suivre l'essentiel de l'actualité, le journal des sports avec Jérôme Lacroix.
Nous sommes le vendredi 5 juillet, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h, 7h, Eva Rock.
Le journal de 5h, bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Les titres.
Gelé ou gelé pas, la question du jour pour les 743 600 candidats au bac. Résultat attendu aujourd'hui. Pas sûr toutefois que tous ces candidats soient fixés. Le ministre de l'Éducation promet que oui, malgré un mouvement de grève de certains correcteurs. Et pour ajouter à la confusion, les résultats de l'Académie du Nord ont été publiés sur Internet dès hier soir. Les derniers jours du procès France Télécom, réquisition aujourd'hui. Et puis le Tour de France cycliste, grand départ de Bruxelles demain avec des favoris absents et des Français aux dents longues.
Europe 1.
C'est toujours ce matin la grande confusion autour des résultats du baccalauréat. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer l'a de nouveau martelé hier. Tous les élèves de France qui ont passé le baccalauréat auront leurs résultats aujourd'hui, malgré le mouvement en grève des professeurs correcteurs. Selon lui, environ 0,3% d'entre eux n'ont pas rendu les copies ou communiqué les notes. 30 000 copies manqueraient sur un total de 4 millions. Tout à l'heure, dans les cours des lycées, devant les panneaux résultats, certains élèves auront donc une note provisoire, celle de leur contrôle continu, une note définitive en début de semaine prochaine. Pour rajouter à la confusion, certains candidats du Nord ont eu la surprise de voir hier soir sur le site de l'Académie leurs résultats, alors prévus pour 10 heures, ils ont été publiés par erreur avant que la page internet ne soit bloquée. Florine a 17 ans, terminale L à Calais.
J'étais très très stressée, donc j'ai pas trop voulu aller sur Twitter. Et c'est un ami de ma classe qui a commencé à tweeter un truc en disant les résultats sont disponibles, c'est pas une blague tout ça, et il nous a envoyé le lien. Il a envoyé le lien sur le groupe de la classe. Du coup, je suis allée voir tout de suite en espérant que ce soit pas une blague. Et j'ai vu mes résultats. J'ai mon bac. J'ai pas mes notes. J'ai été soulagée et assez déçue aussi de pas avoir de mention. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup et que cette année, les conditions de bac, elles ont pas été top. En tout cas pour nous. D'un côté, j'y crois. De l'autre côté, j'en suis pas sûre, donc je vais quand même aller voir les résultats pour avoir la satisfaction d'avoir vu mon nom sur la feuille. et pas que sur un site.
Des propos recueillis par Martin Lange pour Europe 1, publication officielle des résultats de ce bac tant attendu dans la matinée. Dès 8h30 à Aix-Marseille, première académie à lever le voile. Toujours à propos du bac, deux candidats étaient toujours en garde à vue hier soir dans l'enquête sur les soupçons de fuite des épreuves de mathématiques des séries générales. Deux nouveaux suspects, un homme et une femme de 37 ans, ont été interpellés et placés eux aussi en garde à vue.
Europe 1, il est 5h03.
La jeune femme passagère du chauffard de Lorient demande à sortir de prison. Elle est en détention provisoire et conteste toute implication dans l'accident qui a coûté la vie à un enfant de 9 ans. La jeune femme de 21 ans est mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Décision de la cour d'appel de Rennes attendue à 10h. Les derniers jours du procès France Télécom, 10 ans après 19 suicides dans l'entreprise dans un contexte de restructuration. D'anciens dirigeants sont à la barre pour leur management de l'époque jugé pour harcèlement moral, parmi eux l'ex-PDG Didier Lombard. 9 semaines de procès qui se concluront dans quelques jours par les plaidoiries de la défense. Et cet après-midi, réquisitoire, que faut-il en attendre ? Chloé Triomphe.
Pour le symbole, ce procès aura été le premier du genre en France avec une entreprise du CAC 40 et plusieurs de ses dirigeants poursuivis devant un tribunal pour harcèlement moral. En cause, des méthodes de management qui visaient à déstabiliser les salariés pour les inciter au départ dans le cadre d'un plan drastique de réduction des effectifs. Les plans dits Next et Act devaient faire partir 22 000 personnes sur plus de 100 000 salariés. Pour les peines encourues, en revanche, le constat est beaucoup plus limité. Le code pénal prévoit en effet fait une peine maximum de 1 an de prison et 15 000 euros d'amende pour les dirigeants et 75 000 euros pour l'entreprise. Des peines dérisoires aux yeux des quelques 39 parties civiles. Plus que la sanction, c'est donc la démonstration que vont faire les procureurs qui aura son importance tout à l'heure pour tenter de prouver la responsabilité des dirigeants dans la mise en place d'une stratégie globale d'entreprise qualifiée de harcèlement moral.
Chloé Triomphe, les prévenus risquent 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Et puis tremblement de terre cette nuit en Californie.
Magnitude 6,4, le plus important dans la région depuis 20 ans. Quelques blessés légers, mais pas de victimes ni de dégâts majeurs. Les Américains qui ont célébré leur fête nationale à Washington. Pour les Américains, rien n'est impossible, a lancé un Donald Trump qui s'est notamment offert pour l'occasion un défilé aérien et défilé de chars dans les rues de Washington. Le discours du président au National Mall a appelé au rassemblement. Et puis, c'est peut-être pour vous, ce soir, cet après-midi, les vacances, et oui, rouge en Ile-de-France. Dès aujourd'hui, dans le sens des départs, direction le sud, Bretagne et la Normandie. Demain, rouge encore en Ile-de-France et orange sur l'ensemble du pays. C'est pas bien de souhaiter.
C'est moche. Merci Jérôme Lacroix pour ce premier journal. Vous partez pas, évidemment, parce que non. Comme d'habitude, tous les matins, on a encore besoin de vous. On a toujours besoin d'un petit Lacroix chez soi.
Je tiens dans la poche en plus.
Allez, voici le journal d'espoir. À la une, un flashback.
Oui, je vous parle de cette année, les jeans délavés pullulent, Laurent Fabius est Premier ministre, on écoutait à fond Like a Virgin de Madonna sur nos Walkman et taux du livret A était à plus de 6%. Oui. Je vous parle de l'année 1985 et en juillet de cette année-là, on voyait un Français remporter le Tour de France cycliste.
Ah, c'était
Bernard Hinault. Ouais. Et depuis, 34 ans après, on attend toujours un succès tricolore sur la grande boucle. Alors, est-ce que c'est pour cette année alors que le Tour s'élance demain de Bruxelles? En tout cas, plusieurs cadors ne sont pas là. Des cadors favoris étrangers, dont Chris Froome, le Britannique, quadruple vainqueur, mais également Tom Dumoulin, le Néerlandais, deuxième l'an passé. Alors certains Français, du coup, ont les dents longues. Thibaut Pinot, 29 ans, qui est de retour cette année en méforme. Il n'avait pas participé l'an dernier.
L'an dernier, d'avoir regardé vraiment tout le Tour de France à la télé, c'était pas un moment sympa à vivre. Je suis un peu frustré de tout ça et j'ai envie de revivre aussi des belles émotions comme j'ai connu avec le podium, les victoires d'étape. C'est une année où je suis en bonne condition, avec beaucoup d'envie et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc forcément, pour moi, j'ai de l'ambition cette année.
Thibaut Pinot, troisième du Tour 2014. Romain Bardet, lui, était deuxième en 2016, troisième en 2017. Lui aussi est ambitieux. Grand départ et première étape demain à Bruxelles. C'est un hommage à Eddy Merckx, en fait, le cinquantenaire de la première victoire du chouchou de Bruxelles.
Ok. Voilà. Je l'ai, celle-là, je l'ai. Ouais. Et Anne Le Gall, elle n'a pas entendu. Vous devriez la refaire. Le chouchou de Bruxelles.
Bon.
Excellent.
Merci Anne. Excellent aussi demain, la petite finale du mondial féminin de foot.
Oui, Suède-Angleterre, 17h à Nice, chez vous Eva. Dimanche, finale Pays-Bas-États-Unis, 17h également à Lyon. C'est néerlandaise et leur ascension express en 2 ans. Un titre de championne d'Europe et une finale mondiale. Après l'élimination des Suédoises en demi, Elles méritent leur place, ces Néerlandaises, affirme l'ancienne bleue Sandrine Roux, consultante Europe 1.
Cette équipe du Pays-Bas a fait un très beau parcours depuis le début, nous a montré en tout cas un football agréable, jouant vers l'avant. Donc on va dire que par rapport à cette demi-finale, elle le mérite, parce que la Suède n'a pas vraiment joué, la Suède joue en contre, et celle qui a produit, ou en tout cas qui a joué au football, a été récompensée.
Sandrine Roux avec Corinne Boulou, le tennis. Et c'était très chaud hier entre l'Australien Kyrgios et l'Espagnol Nadal. Les deux joueurs de tennis ne s'apprécient guère et Nadal s'impose en quatre manches et file au troisième tour. Il affrontera le Français Tsonga. Federer sera lui opposé à un autre Français, Lucas Pouille. À noter, il n'y a plus de Françaises déjà après hier les éliminations de Mladenovic et Parmentier.
Et on termine évidemment avec le chiffre du jour.
33 comme le nombre record pour elle en équipe de France, comme le nombre de points record pour elle en équipe de France inscrit hier en un seul match par la bleue du basket Sandrine Gruda.
Wow.
33 points à elle toute seule, elle a donc largement contribué au succès, au courage des Françaises face aux Belges en quart de finale de l'Euro en Serbie. Succès 84-80 après prolongation et du coup une demi-finale à disputer demain face à la Grande-Bretagne.
On croise les doigts pour les Bleus. Oui. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. On vous retrouve dans quelques minutes pour ce qui reste un de nos moments favoris. On peut le dire, de ces petits matins. Le Pressing, notre revue de presse en mode zapping.
Europe 1. Il est 5h08 et Varrock.
Debout les copains se poursuit et comme chaque matin, nous irons à la rencontre d'une personne qui a osé changer de vie. Un changement professionnel qui bouleverse une existence et devient aussi un parcours inspirant pour nous tous. Judith Bon était journaliste, elle a choisi de créer son épicerie fine. Mais avant de revenir sur ce changement de vie, Céline, à quoi ressemble la météo du jour ?
Une très belle journée avant un week-end agité, vous voyez ? Donc il va falloir en profiter. Oui, on parle des bonnes nouvelles d'abord avec aujourd'hui. Une journée qui s'annonce estivale en tout point. Soleil partout, chaleur, 27 à 38 degrés sur l'ensemble du territoire. On attend 31 degrés à Paris cet après-midi. Alors si on cherche des nuages, on va en trouver un petit peu en fin de journée sur les reliefs et la façade atlantique. Et c'est de là que viendra la perturbation de demain. Des orages au sud de la Loire pour samedi. Température encore chaude, dimanche ça va baisser un tout petit peu et les orages auront gagné un peu de terrain vers la moitié nord et une bonne partie est du pays. En attendant, on profite de cette belle journée.
Ouais, et puis 31 degrés, c'est chaud.
Mais oui,
bien cet après-midi. Anne Le Gall, est-ce que c'est chaud aussi sur Twitter?
C'est chaud, nos auditeurs sont là et bien réveillés. Et en ce dernier jour d'école et de résultats du bac, on vous demande vos meilleurs souvenirs de fin d'année scolaire. Emergie nous répond sans hésitation, c'est mon BTS en 2005, un dîner avec mes collègues et nos profs. En plus, les restaurateurs asiatiques leur avaient offert plein de bouteilles. DLM 722 nous a posté une belle affiche de kermesse d'école. Ah oui, kermesse d'école, ces merguez, ces spectacles de fin d'année, ça fait partie des bons souvenirs.
Ça sent vécu, hein.
Ça sent à fond. Ouais. À fond, j'en ai vécu une cette semaine d'ailleurs. Et Thierry évoque aussi comme bon souvenir de fin d'année scolaire le fait de rendre les livres.
Ah oui, c'est vrai.
Et de commencer à faire des plans avec les copains pour les retrouver pendant les vacances d'été.
Exact.
Voilà. Merci beaucoup. Continuez à nous écrire avec le hashtag Europe 1.
Exactement. Et c'est sur Twitter que ça se passe. Merci les filles.
Europe 1.
5h, 7h. Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur, le combo de vos petits matins. Alors pour vous qui vous réveillez ou vous qui allez vous coucher, et il y en a certains à la rédaction, je peux vous dire, je vais dénoncer, qui ont fait ce qu'on appelle la soudure. Ils sont partis faire la fête hier soir et ils sont encore à côté de nous là. Alors parfois il faut avoir une bonne raison de se lever. Eux l'ont trouvé depuis septembre, nous avons partagé avec vous des parcours incroyables, des gens qui ont compris qu'il fallait changer de vie. C'est le cas de Judith Bon, elle a 50 ans, elle habite au Havre, elle a été journaliste pendant 10 ans. Et puis à la naissance de sa fille en 2002, elle a décidé d'arrêter le métier et de devenir entrepreneuse. Sa passion pour les bons produits l'ont poussée à ouvrir une épicerie fine.
Fallait oser.
En fait, le déclic, ça a vraiment été le 11 septembre 2001 parce que j'étais enceinte et que pour la première fois, j'ai fait éponge. En fait, ça a été insupportable. Alors, je sais qu'il y a des grands reporters qui ont 3-4 enfants, mais moi, j'ai senti que je pourrais plus faire ce que je faisais avant, en fait. Mes amis me disaient, quand tu sauras pas quoi faire, tu ouvriras un magasin d'huile d'olive. Et en fait, un matin, je me suis réveillée. Ça s'est vraiment passé comme ça. J'avais le nom du magasin et j'avais le magasin dans ma tête. J'avais tout.
Judith a bénéficié d'aide pour monter son projet. Elle a établi 5 business plans avant de trouver le bon modèle économique.
Et elle a ouvert son premier magasin en 2004, puis un deuxième juste en face, sous le marché des Halles Centrales au Havre. Elle veut permettre aux amateurs de cuisine d'avoir accès à la meilleure qualité possible à prix raisonnable. Elle compte 4000 références dans ses deux magasins et vend beaucoup en vrac pour respecter l'environnement. Judith adore le contact avec les clients et ce métier de commerçante.
J'étais heureuse avant, j'ai fait mon métier jusqu'au bout avec passion et celui-là ne me lasse pas du tout. Moi, je ne me lasse pas des gens, je ne me lasse pas de mes produits. Voilà, c'est la bouche, c'est tellement gai. je crois que je m'en lasserai jamais, en fait.
Et fort de son expérience, Judith a également monté un réseau en Normandie qui s'appelle Femmes et Challenge afin d'aider les femmes à entreprendre.
Et vous pouvez retrouver les produits de Judith sur son site internet www.comptoirdesarômes.com.
Europe 1.
Il est 5h12, Eva Rock.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour s'informer dans la bonne humeur grâce à toute la bande. Et avant de se plonger dans la lecture de la presse, un intermède musical poétique même, figurez-vous, avec un extrait du dernier album de Marc Lavoine, Ma Papou, sur Europe 1.
Ma papou, poupée moitié indo-chinoise, 50 française, mon dernier rendez-vous, mon ultime hypothèse, peut-être es-tu l'œuvre perdue de Velázquez. Ma papou, mon drôle de numéro 396, voudrais-tu sauter en du haut de ces falaises, comme les oiseaux dans les eaux du Péloponnèse. Tu chantes Aline, bijou, bijou, osé Joséphine, j'ai un succès fou, initials, bibi, jen, bibambou, ma lady héroïne, paradis. Chinoise, 50 française, je prêche pour ta paroisse, prélat de ton diocèse, et tant pis si tout ça finit au Père Lachaise. Ma papou, fais son striptease pour préparer mon steeple chaise, à redresser la tour de Pise, il est chaud le showcase, plus chaud dit-on que le piton de la fournaise. Tu chantes Aline, bijou, bijou. Osé Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, bibi, jen, bibambou. Maladie, héroïne, au paradis, un rendez-vous, ma papou. Osé Joséphine, j'ai un succès fou. Initials, bibi, jen, bibambou. Maladie, héroïne, au paradis, un rendez-vous, ma papou.
Papou chante Marc Lavoine, une chanson en guise de déclaration d'amour à sa nouvelle compagne. Et oui, on est un peu fleur bleue sur Europe 1.
Il est 5h15. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Rock.
Les candidats du bac seront-ils tous fixés sur leur sort aujourd'hui? Le ministre de l'Éducation promet que oui, malgré un mouvement de grève de certains correcteurs. Selon Jean-Michel Blanquer, environ 0,3% d'entre eux n'ont pas rendu les copies ou communiqué les notes. 30 000 copies manqueraient sur un total de 4 millions. Pour ajouter à la confusion, certains candidats du Nord ont eu la surprise de voir hier soir sur le site de l'Académie du Nord les résultats. Prévus pour 10 heures, ils ont été publiés par erreur. La page internet est désormais bloquée. Et puis tremblement de terre cette nuit en Californie, magnitude 6,4, le plus important dans la région depuis 20 ans. Quelques blessés légers, mais pas de victimes ni de dégâts majeurs. Les Américains qui ont célébré leur fête nationale à Washington. Pour les Américains, rien n'est impossible, à lancer un Donald Trump qui s'est notamment offert pour l'occasion défilé aérien et défilé de chars dans les rues de Washington. Et lors d'un discours, le président a appelé au rassemblement.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce vendredi. Et comme chaque matin, il est l'heure de retrouver Thierry Léger pour quelques conseils hippique, histoire de ne pas s'endetter en cette veille de vacances. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Eva, il y aura des courses ce soir en nocturne à Cabourg et mon pari gagnant sera le 307 d'Enzo Montaval. Ne tenez surtout pas compte de sa dernière contre-performance le 17 juin à Salon de Provence, car ce jour-là, le cheval avait vraiment mal encaissé le long voyage qu'il a effectué depuis la Normandie et en plus, il n'a pas réussi à uriner avant la course, un paramètre indispensable pour pouvoir fournir une grande performance. Nullement éprouvé par cette mésaventure et ayant surtout très bien retravaillé depuis, il est désormais dans les meilleures dispositions possibles, ce qui devrait lui permettre de refaire surface dès ce soir. Notez bien, pour Cabourg, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 7 d'Enzo Montaval.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h17.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Rock.
Vous êtes bien sur Europe 1 et vous écoutez Debout les copains, votre petite matinale avec une équipe très bien réveillée malgré un réveil en pleine nuit. Une matinée qui débute toujours pour nous avec un passage en revue des quotidiens et magazines. C'est l'heure du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et alors avant de vous donner l'essentiel des titres du jour, sachez que ce pressing quotidien a été un moment réjouissant à préparer à vos côtés et à réaliser ensuite en direct tous les matins. La presse est une liberté, la presse c'est avoir la possibilité de s'informer, de comprendre le monde dans lequel on évolue, alors ne jamais oublier ses fondamentaux. Et ce matin, à la une de vos quotidiens régionaux et nationaux, eh bien c'est un sujet qui domine, c'est le bac. Alors pas le bac façon effusion de joie de vos bambins franchement diplômés, non. C'est plutôt soupe à la grimace à quelques heures des résultats, la faute à la grève d'Endot menée par une partie des enseignants. Alors Libération titre ainsi « Prise de bac » avec une photo peu flatteuse de Jean-Michel Blanquer. Le Parisien écrit « Le chantage à la copie » et Le Figaro a clairement choisi son camp « Tollé contre les enseignants qui prennent le bac en otage ». Je ne suis pas sûre que l'expression « prendre en otage » soit très pertinente dans cette affaire. Et vous les loulous, quel article a retenu votre attention ce matin ? Le Gall, on commence avec vous.
Alors là, après votre ode à la liberté de la presse, il faut que j'enchaîne. Moi, à l'approche des vacances, j'ai repéré ce matin dans le supplément Week-end des Échos un dossier sur les nouvelles tendances commerciales autour du rosé.
Bah oui.
Les Français en sont les premiers consommateurs
au monde, figurez-vous.
Avec modération.
Et oui, avec modération, avec quand même un chiffre hallucinant. Vous savez combien de bouteilles par an consomment en moyenne les Français de plus de 15 ans ?
Aucune idée.
15 ans déjà
par
avec
an.
Ça.
C'est
par personne.
Alors, j'étais très surprise. Oui, plus que ça, c'est 21 bouteilles par an.
Alors, c'est vrai, dont 18 en été.
C'est vrai que le rosé reste chez nous très associé au soleil, au barbecue, aux apéros d'été. Mais la tendance, c'est de plus en plus de le boire toute l'année. 62% des Français estiment que l'on peut boire du rosé en toute saison. Et sortir le rosé de son image de vin d'été, vanter ses mérites, ça devient une stratégie marketing. Stratégie d'ailleurs qui fonctionne très bien pour l'exportation vers les États-Unis. Les Américains boivent du rosé tout le temps, nous
ils
explique
raffolent,
cet article
ouais.
des Échos. En 10 ans, les revenus générés par l'exportation du rosé sur le marché américain ont été multipliés par 50. Et aujourd'hui, les quantités de rosé vendues à l'exportation dépassent les volumes écoulés en France dans la grande distribution. C'est assez étonnant. Il faut dire que l'autre tendance marketing autour du rosé, c'est aussi la montée en gamme. Les viticulteurs essaient de plus en plus d'en faire un vin aux arômes complexes, un vin donc qui se bonifie lui aussi en vieillissant. La conséquence de cette montée en gamme, évidemment, au-delà du boom des exportations,
c'est, les prix.
C'est la hausse des prix, exactement. Les prix du rosé ont doublé en 10 ans, indique l'article. Okay. Alors peut-être qu'un jour, le rosé finira par remplacer le champagne à Noël.
Vous êtes dingue ?
Non, aux États-Unis, ça n'a rien d'incongru.
Ah oui, aux États-Unis,
vraiment.
D'accord, mais pas en France.
En France, on n'y est pas encore, non. Mais on voit quand même que les lignes bougent. Donc le rosé explore les saisons, c'est le joli titre de cet article à lire donc dans le supplément week-end des Échos.
L'excellent supplément week-end des Échos.
L'excellent, avec des très belles photos notamment.
Ça m'étonne
aussi.
Que vous ayez choisi ce sujet. Je ne pensais pas ça de vous. En
c'est
fait.
Un hommage pour vous, Eva.
Ah.
C'est ça, spéciale dédicace.
Voilà.
Je
ne vais
pas vous regretter, vous,
enfin,
vous savez. Céline Dacosta, on part dans quel quotidien ?
Juste pour finir, moi je ne suis pas très rosée, mais j'aime bien le champagne rosé.
Ah,
c'est mal à
fait. C'est dur.
Moi j'aime bien. Ouais. Alors vous avez sans doute remarqué, et ça vous a sûrement agacé, que les emplacements de stationnement qui étaient gratuits il y a peu deviennent de plus en plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, payants en ville.
Ah, oh, que ça énerve. Oh non, ça vous énerve pas,
j'ai
ça
pas de voiture, mais c'est pas grave. Non, mais...
Eh bien, ce sentiment d'agacement, vous allez le ressentir aussi pendant vos vacances à la montagne. Prenez votre voiture souvent en vacances. Mais si vous allez à la montagne...
Souvent à la montagne en plus.
Ouais, ouais. En plus, souvent à la montagne. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits qui deviennent payants. Par exemple, dans un haut lieu touristique des Pyrénées, on a installé des horodateurs et c'est la Charente-Libre qui nous alerte ce matin sur ce fait. Ça agace profondément les partisans de la gratuité des espaces de liberté. Une centaine de manifestants qui ont protesté mi-juin dans les Hautes-Pyrénées contre l'installation d'horodateurs sur une aire de stationnement menant au massif du Néouvielle, très visité pour ses lacs. Alors pour Éric Castin de l'association Libre Pyrénées, la montagne doit rester gratuite. Il trouve ça injuste de devoir débourser 10 euros pour accéder au site et estime à juste titre que la montagne doit rester gratuite et accessible à tous sans entrave financière. Puis alors, en plus, c'est pas très pratique. C'est vrai, imaginez Mathieu Noël. Il va au Mont-Blanc.
Au hasard. À la montagne.
Bon, voilà. Il est là. Il arrive à la montagne, il met sa petite pièce dans son horodateur, paf, arrivé à 2000 mètres au Mont-Blanc, il dit « Oh mince !» Il regarde, ça me fait descendre. Je vais mettre une pièce, je vous rattrape. Non, c'est pas pratique. Alors,
c'est
on
très
nous dit...
crédible.
Il serait capable, mais de ne pas remonter surtout. Il vous attendrait qu'un bâchon en bas. Alors, on nous dit que c'est pour aider à la préservation des sites.
Et oui, quand même.
D'autres se disent que peut-être que ça peut faire baisser la fréquentation des sites et que c'est une bonne chose. Ouais.
Ah, moi, oui, enfin, si, quand
pour
même. On peut comprendre. Oui, c'est ça.
Bah, un horodateur sur un parking en bas de. Enfin, je trouve ça très bizarre, quoi. Moi, je suis pas fan de l'idée, en tout cas. On paye déjà assez en ville, tout
je
ça.
Sais bien.
On pourrait trouver un autre moyen de.
Mais si l'objectif, c'est aussi de protéger les sites en question.
Mais une petite boîte, une cagnotte. Moi, je mets des sous dedans. Hein.
Mais vous, hein,
préservation du site, paf, ouais. Moi, j'y vais. Bon, tout est une question d'habitude, me direz-vous. C'est le cas au cœur du parc national des Pyrénées, où les gens doivent payer pour accéder au site touristique du pont d'Espagne depuis 1995. Vous voyez, donc peut-être qu'on va finir par s'y habituer. C'est à lire dans la Charente Libre aujourd'hui.
Merci beaucoup, Céline Acosta. Jérôme Lacroix, je me tourne vers vous.
Oui, avec un papier de saison, j'ai envie de dire demain. Grand
du rosé à la montagne.
Non, plus dans la thématique été, quoi.
Vous
globalement,
de le
avec,
voir parce que le rodateur est cher. Hein.
Demain, grand départ de l'une des épreuves sportives les plus populaires, la plus suivie dans le monde à la télé, après les JO et la Coupe du Monde de foot. Hein. Entre 1 et 3 milliards et demi de téléspectateurs chaque année pendant 3 semaines, c'est bien sûr
le
Tour de France cycliste. La seule compétition qui passe devant votre porte et qui est gratuite, comme se plaisait à le dire Eddy Merckx, 10 à 12 millions de personnes chaque année au bord des routes. Alors, le Parisien aujourd'hui en France nous éclaire ce matin sur la formidable machine logistique qu'est le Tour de France. Quelle logistique, c'est le titre de ce papier très à propos, c'est exactement ça. Le papier démarre ainsi. Imaginez le déménagement d'une très, très, très grande famille. C'est ça, le Tour. C'est une compétition itinérante hein, et tous les jours, à chaque étape, eh ben, il faut tout déménager, plusieurs tonnes de matériel déplacées en moyenne sur 7000 km. Côté coureur, par exemple, le Parisien illustre cet aspect avec Cofidis, l'une des équipes françaises. Dès le départ, donc avant le départ, hein, les coffres des 10 véhicules de l'équipe sont chargés de 60 vélos, en sachant qu'il y a 8 coureurs dans l'équipe. Alors pourquoi autant de vélos?
Il y a
des vélos avec les différents types de freinage, à patins, à disque, les vélos de contre-la-montre qui sont plus aérodynamiques, les vélos pour les étapes de sprint, les vélos pour la montagne, les différentes tailles de roues, etc. Il y a aussi les vélos qui vont avec les préférences de chaque coureur, qui ont parfois leur petite
lubie. Les vélos électriques.
Non. Pour les tenues. 8 casques, 40 maillots, 80 paires de chaussettes, par exemple. Voilà, ça, c'est pour le côté matériel. Pour l'organisation des équipes et le confort des coureurs, en ce qui concerne la logistique, il y a une équipe dans chaque team qui doit toujours avoir un temps d'avance et arriver dans la journée à l'hôtel où les coureurs séjourneront le soir, notamment... Le chef cuistot, important, bon, il prépare surtout des pâtes et des sucres lents, mais dès que le médecin de l'équipe lui autorise, il essaie aussi de faire plaisir aux coureurs. Des coureurs qui sont chouchoutés, confort maximum, les équipes transportent les oreillers personnels des coureurs, parfois même des lits, ça c'est pas dans l'article, mais moi qui ai fait 3 Tours de France, je me souviens d'une équipe néerlandaise qui transportait les lits de ses coureurs.
Le sommier, véridique.
Après, si, on a fait leur portable. On transporte aussi des clims portatives, des machines à laver, les tables de massage qui font environ 15 kilos chacune. T'imagines le bazar. Et puis plus globalement, aller faire un tour une fois juste par curiosité, sur le site d'une ligne d'arrivée pour constater 180 camions de logistique. Il y a aussi des médias, des camions de médias qui y sont garés. 6 km de barrière pour border le parcours et sécuriser la ligne d'arrivée. Enfin bref, un beau barnum.
Ah ouais, c'est, c'est immense quoi. Non mais j'aimerais bien être une petite souris pour voir les coulisses. Hein,
ce genre d'événement. On n'imagine pas tout ça.
Vous qui l'avez vécu, hein, c'est vraiment ce que vous avez constaté.
C'est le premier truc.
Votre meilleur souvenir de Tour de France ?
Le meilleur souvenir de Tour de France, c'est une victoire française à l'Alpe d'Huez. Christophe Riblon qui avait gagné, c'est une victoire.
Et le meilleur souvenir des coulisses ?
Ah, le meilleur souvenir des coulisses, ah non, j'en ai pas tellement.
Que vous pouvez raconter au micro, évidemment.
Oui, j'ai le souvenir d'une soirée karaoké avec Martin Fenneau, avec qui j'avais fait le Tour de France en 2013. Soirée karaoké au Grand Bornand, et le lendemain, réveil, c'est là que je l'ai vu manger un énorme maroilles au petit déjeuner.
Ouais, bah voilà.
Martin Fenneau.
Très bon souvenir. Dans la bon appétit si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner.
Le fromage au petit déjeuner, ça se.
Oui,
ça se fait, moi j'aime bien.
Je ne sais pas, même dans la journée, moi je ne suis pas.
Ah oui,
ouais, je suis désolée. Merci beaucoup à tous les trois. Eh bien, on peut refermer définitivement les portes de notre pressing.
Kissou Il est 5h27, Eva Roche.
Debout les copains se poursuit avec un point sur la météo. Et puis après le journal d'Hélène Zélani, le docteur Ichou viendra nous présenter un livre au titre évocateur, voire provocateur. Vous êtes votre meilleur psy. Bon réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Eva Roque.
C'est Linda Costa, le soleil brille, on profite de cette belle journée.
Oui, c'est vrai, beaucoup de soleil, de la chaleur, une journée estivale à tout point de vue. Alors si on cherche bien, parce que j'ai un petit peu de temps, on trouve quelques nuages, comme le long des côtes atlantiques en fin d'après-midi, avec peut-être quelques gouttes. On aura aussi quelques nuages, et là aussi peut-être un petit peu de pluie sur le relief du massif central des Alpes et des Pyrénées, mais rien qui ne viendra gâcher l'impression de beau temps de cette journée. Puis on aura aussi un petit peu de vent près de la Méditerranée. On en profite parce que ça va changer ce week-end, un ciel agité, des orages qui arrivent pour la moitié sud demain samedi. Ciel qui sera perturbé pour l'est et la moitié nord dimanche. La bonne nouvelle, c'est que ça se calme à partir de lundi.
Et un petit mot des températures.
Très douce ce matin, 15 à 24 degrés, 18 à Paris déjà. Un petit peu moins à Caen, hein, 11 degrés en ce moment. Et puis cet après-midi, on aura chaud partout. Une belle moyenne, hein, 27 à 38 degrés, 28 à Brest, 30 à Nancy, 31 à Paris, 33 degrés à Montpellier, 36 à Clermont-Ferrand, jusqu'à 38 degrés attendus à Toulouse.
Ça me fait rire quand vous dites on aura chaud partout.
Ouais, ça m'étonne pas. C'est pas grave.
Merci Céline.
Sans écharpe.
Europe 1. 5h, 7h. Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, 2h pour s'informer et 2h pour sourire. Dans quelques instants après le journal d'Hélène Zélani et la chronique santé du docteur Ichou, vous retrouverez la bande de vendredi, les bons tuyaux pour une dernière, avec au programme BD, vélo et encore vélo.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous réveiller, il est 5h30. Eva Roque.
Les infos de ce vendredi 5 juillet 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin Hélène.
Le premier week-end de départ en vacances pour les juilletistes. Beaucoup de monde sur la route ce soir, notamment en région parisienne, et des forces de l'ordre sur les dents. Les incertitudes autour du bac, dont les résultats doivent être dévoilés ce matin. Certains candidats de l'Académie de Lille ont réussi à avoir leurs résultats dès hier. Et puis, discours de Donald Trump pour la fête nationale inspirée du 14 juillet français. Pour les Américains, rien n'est impossible, a dit le président.
Europe 1. Enfin la quille pour de nombreux Français. Ce soir commence donc le premier gros week-end de départ en vacances. Bison futé voie rouge dans le sens des départs en Île-de-France avec une circulation dense vers le sud, la Bretagne et la Normandie. Demain ce sera toujours rouge en région parisienne et orange partout ailleurs. Si vous prenez le volant, attention, même si de nombreux radars sont hors service, la police est à l'affût au sol et dans les airs. Justin Morin a assisté au contrôle sur l'autoroute A6 à la sortie de Paris.
L'hélico de la gendarmerie rôde et ne loupe rien de ce qui se passe sur l'autoroute. Dès qu'une infraction est repérée, elle est transmise par radio aux équipes au sol.
Alors, attention, vitesse excessive, dépassant par la droite.
Intercepté par des policiers à moto, le conducteur pris en flagrant délit est amené sur une aire d'autoroute.
Vous avez été pris pour deux infractions, dépassement par la droite et la vitesse excessive.
Stéphane avait pourtant bien repéré l'hélicoptère.
Je me suis fait allumer. 90 euros pour dépassement par la droite, 3 points. Et la vitesse excessive, il n'y a pas de perte de points, mais je ne sais pas le montant. Mais bon, prune s'il y a, il y a, même si c'est pour 5 ou 10 km/h, c'est la loi, il faut la respecter. Et je crois que c'est important.
Il est de bonne foi, c'est moins le cas pour d'autres. Un téléphone au volant, non-respect des distances de sécurité, oubli du clignotant pour doubler. Ce sont souvent de petites infractions, banalisées, qui mises bout à bout créent des accidents, rappelle le commandant Jean-Marc Ruiz.
À l'approche des grands départs, on voulait que les gens sachent
que les forces de l'ordre sont là et seront là. Le but, il n'est pas de réprimer les gens absolument, mais c'est surtout de faire diminuer les accidents.
Et même si seule l'Île-de-France est classée rouge aujourd'hui, les difficultés sont attendues autour de toutes les grandes métropoles dès la fin d'après-midi.
Justin Morin est dans les gares. La SNCF attend plus d'1,5 million de voyageurs. Réquisitoire cet après-midi au procès des suicides chez France Télécom. Hier, dans leur dernière plaidoirie, les avocats des parties civiles ont dénoncé, je cite, un immense accident du travail organisé par l'employeur. Et puis on saura ce matin si la passagère du chauffard de Lorient est remise en liberté ou pas. Il avait percuté 2 enfants début juin, l'un n'avait pas survécu. La jeune femme de 21 ans qui a fait appel de son placement en détention provisoire conteste son implication dans l'accident.
Europe 1, il est 5h32.
Ils sont un peu plus de 700 000 candidats au bac à vivre encore quelques heures de suspense.
Et oui, les résultats tombent ce matin, mais décidément rien ne se passe comme prévu pour ce millésime 2019. Les notes ont fuité hier soir sur le site de l'Académie de Lille avant que l'erreur ne soit réparée. 3 candidats marseillais, Elisa, Thomas et Amélie en terminale S et L, connaîtront leurs résultats à 8h30 entre crainte et espoir.
C'est ma mère qui va m'accompagner devant le lycée. On va attendre les résultats qu'ils affichent. Je serai là une heure avant même pour être tout devant, pour voir en premier, voir notre nom, on espère quoi. Comme dans les films, tout le monde se pousse pour regarder avec mention, sans mention. Enfin, c'est pas grave, de toute façon le but c'est de l'avoir. J'ai pas crié.
J'ai très très mal dormi. Je pensais que je l'avais pas en fait.
T'as rêvé que t'avais pas le bac ?
Ah ouais. Ouais, j'étais là en mode non, je vais devoir refaire une année et tout, c'est pas possible pour moi, c'est vraiment pas possible. J'espère l'avoir, pitié. Mais parce que ça fait des années que je travaille sur ce truc, et là, s'il n'y a pas mon nom, mais je pleure, je crois.
Au rattrapage ?
Ah non, 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 pitié, ça aussi, oh non, non.
Ça nous a rajouté un stress en plus de savoir si on allait bien avoir les résultats vendredi ou pas. Si je l'ai, ça sera la fête, et enfin les vacances qui pourront commencer. En Espagne, entre amis, là on va profiter à fond.
À fond des lycéens dans l'attente au micro européen de Nathalie Chevance. Côté ministère de l'Éducation, on promet toujours que tous les lycéens seront fixés ce matin, et cela malgré les 700 correcteurs grévistes qui retiendraient encore quelques 30 000 copies sur 4 millions. Certains élèves devraient avoir la note de leur contrôle continu en attendant celle de leur copie. Enfin, pour ce qui est de l'enquête sur les fuites de l'épreuve de maths, 2 nouveaux suspects âgés de 37 ans ont été à leur tour placés en garde à vue.
Ça fait longtemps qu'ils avaient leur bac, 37 ans.
Oui. Oui, en effet.
Aux États-Unis, Air Force One, l'avion des présidents américains, a survolé le centre historique de Washington.
Oui, ce qui annonçait l'ouverture de la cérémonie de la fête nationale du 4 juillet. Dans son discours, Donald Trump a rendu hommage à l'armée et a appelé au rassemblement. Discours derrière, une vitre pare-balles d'ailleurs. Un président vivement critiqué par les démocrates pour avoir transformé une fête nationale apolitique en meeting de campagne. Et puis, ces enchères avaient suscité la colère de l'Égypte. Un portrait sculpté du pharaon Toutankhamon a été vendu hier soir près de 5 millions de livres chez Christie's à Londres. Une tête de moins de 30 cent datant de plus de 3000 ans. Le Caire, qui considère que l'œuvre a été volée, avait exigé l'annulation de la vente. On ne sait pas qui a acheté cette tête de Toutankhamon.
C'est pas moi. Merci. Merci beaucoup, Hélène Delany.
C'est très décoratif.
Alors, Hélène, vous ne partez pas en vacances, vous, contrairement
suite,
à beaucoup d'autres. On vous retrouve évidemment pour le journal de 7h tout à l'heure. Et puis, on va se voir lundi, puisque vous serez à l'antenne. Et vous savez, vous avez un point commun avec Mathieu et Hélène. C'est un point commun gastronomique.
Bah moi, j'en mange du tofu parfois quand j'ai mangé trop de poulet. Je mange un peu de tofu. Le soir, je prends plutôt du tofu. Le problème du tofu, c'est qu'il y a un peu des hormones féminines dedans. Ça nuit à ma virilité.
Alors, lui, je ne sais pas s'il aime le tofu, mais le sport, oui. Ou alors, j'ai rien compris. Jérôme Lacroix, c'est l'heure de votre nouveau journal des sports.
Tofu quand j'ai mangé trop de poulet.
Je sais pas.
Ça.
Non mais Mathieu Noël,
les protéines, tout
vous
ça.
Vous essayez de comprendre un être complexe, c'est pas la peine. À la une, mon cher Jérôme, un joli coup de cœur.
Oui, pour vous trois, mesdames.
Ah,
non, c'est gentil. Ouais, c'était une transition. Courage, oui, elles
c'est
ont gagné. Elles ont gagné les Bleus du basket. J'en profite pour vous dire à quel point je vous aime. Elles ont gagné au cœur, au courage, les Bleus du basket. Elles sont qualifiées ce matin pour une demi-finale du championnat d'Europe en Serbie. Après hier, un succès 84-80. Après une prolongation acquise à la dernière seconde face à des Belges qui ont donc bien malmené les Françaises, Christophe Lamar.
C'est une des leçons qu'enseigne le haut niveau. Il ne faut jamais être trop content de soi, ou alors pas longtemps. Mais tout de même, elles avaient de quoi sourire les Françaises hier soir dans cette Combank Arena de Belgrade, un peu trop désertée par le public. Les Bleus s'offrent une nouvelle demi-finale, la 6e d'affilée dans un championnat d'Europe. Cela situe le niveau de cette équipe qui pêche certes sur la scène mondiale, mais reste un sérieux outsider sur la scène européenne. petite satisfaction supplémentaire, les coéquipières de Marine Johannes ont également effacé la claque de Tenerife. L'an dernier, au même stade de la compétition, les Belges avaient humilié les Françaises lors du Mondial espagnol. Voilà le train bleu lancé à toute vitesse sur les demi et sur son prochain adversaire, l'Angleterre. Un obstacle qui est loin d'être infranchissable.
Christophe Lamarre, oui, France-Grande-Bretagne demain pour une place en finale. Les Françaises visent le titre après avoir été battues en finale par les Espagnols lors du dernier Euro. Le tennis et deux affiches relevées pour deux Français au troisième tour de Wimbledon. Pouille, Federer et Tsonga, Nadal. Nadal qualifié hier en quatre manches face à l'Australien Kyrgios dans un contexte tendu d'inimitié. Et par ailleurs, il n'y a plus de Françaises dans le tableau simple après les sorties hier de Mladenovic et Parmentier.
Et puis on termine avec la personnalité du jour.
J'ai choisi Renaud Lavillenie, le français champion olympique 2012
idée.
Et surtout toujours recordman du monde, du saut à la perche avec ce bond à 6,16 m. Il aura fort à faire ce soir lors d'une compétition à Lausanne, puisque face à lui, il aura le champion du monde Duplantis, le suédois, le champion olympique Braz, le brésilien. Lavillenie sera attendu après un retour le mois dernier et des performances pour l'instant loin de ses capacités. Pas d'inquiétude toutefois, tempère Jean-Claude Perrin, consultant Europe 1.
C'est une question de sensations, de rythme et de confiance, parce que pour le reste, il le possède. Et il n'a pas choisi la facilité, puisque deux fois de suite, il reprend par des grands prix où il y a tous les adversaires, mais ma foi, c'est un garçon qui est bien armé sur le plan psychologique pour supporter cette concurrence.
Jean-Claude Perrin avec Corinne Boulou.
Mais si j'ouvre pas mon micro,
c'est mieux avec.
C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Alors avant de penser à Transat Plage Morito, vous revenez pour le journal du Mondial tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
D'accord. Merci beaucoup.
Europe. Il est 5h38, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, votre réveil du petit matin qui a tenté depuis plus de 10 mois maintenant de conjuguer info et sourire. Dans un instant, séance bibliothérapie avec le docteur Ichou, séance hippisme avec José Covès et séance je me cultive avec la bande de vendredi Les Bons Tuyaux. Et ce sera dans un instant sur Europe 1.
Il est 5h39, Eva Roque.
Vous écoutez Debout les copains, il est l'heure de lever les yeux vers le ciel.
Oui.
Céline, est-ce qu'il fait beau au Mont Blanc?
Mais il va faire beau aussi, il a de la chance aujourd'hui, Mathieu, il va faire très beau.
Et oui, parce que notre ami Mathieu Noël est là-bas. Hein.
Voilà, ça va se gâter ce week-end avec des orages, donc on prendra de ses nouvelles. Et on en profite aujourd'hui, très belle journée avec des températures qui seront très agréables cet après-midi, très estivales. 25 degrés, ça c'est la plus basse à Cherbourg. Ailleurs, on va vite passer la barre des 30 degrés. 31 à Paris, 32 à Mulhouse, 33 au Mans, 34 à Aurillac, 35 à Bordeaux, à Lyon, 36 à Auch, 37 à Agen et 38 à Toulouse pour la maximale. Et je vous le disais, on en profite parce que ce week-end, ça va être assez agité. Soleil et ciel bleu en attendant.
Merci beaucoup Céline. Anne, quoi de neuf du côté de Twitter?
On vous demande depuis ce matin vos meilleurs souvenirs de fin d'année scolaire et de résultats d'examen. Et vous êtes nombreux à nous répondre. Merci beaucoup. Olivier évoque les animations à l'école de fin d'année scolaire. Alors pour lui, c'était au micro. Il rajoutait une petite touche perso, nous dit-il, avec l'horoscope, les infos locales et le passage des disques. Carole évoque aussi la nostalgie de ces spectacles de fin d'année. Et elle évoque la nostalgie aussi de quitter ses amis en fin d'année scolaire. Une nostalgie qu'elle ressent un petit peu ce matin avec l'équipe de Debout, les copains. D'ailleurs, vous êtes nombreux ce matin à remercier l'équipe pour la saison. Alors, merci. On a une pensée pour Mathieu Noël, du coup, qui est déjà en vacances. Et puis,
vous, si vous voulez, moi, non. Je pense pas à lui.
On va saluer aussi le reste de l'équipe de Debout les copains en régie. Ce que vous n'entendez pas, Philippe Amardeil à la réalisation, Sébastien Bordenave pour la production des sons, Olivia Missen-Macher à la préparation de l'émission. Et Marie nous dit, on a commencé l'année avec vous avec une chanson qui donnait la patate et on l'a gardée toute l'année, cette patate. Et la chanson, elle ne s'en souvenait plus, Marie. C'est Marie, on va l'écouter.
Ça a été un peu notre hymne.
La patate
avec quelques
aujourd'hui
autres...
c'est vendredi.
Voilà, c'est ça. Merci. Merci beaucoup les filles, merci.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roque.
Un suppo et on lit le vendredi, c'est bibliothérapie. On évoque un livre sur la santé. Bonjour docteur Marcel Ichou.
Bonjour Eva.
Vous êtes venu ce matin avec un livre au titre provocateur. Vous êtes votre meilleur psy du professeur Antoine Pellissolo aux éditions Flammarion. C'est vrai ça docteur Ichou? On peut se sauver soi-même?
On peut s'aider, mais le titre est provocateur car évidemment le professeur Pellissolo, qui est chef de service en psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor, est bien convaincu que dans bon nombre de cas, être accompagné par un psy est souvent nécessaire. Mais deux problèmes se posent. Un psy, de qui parle-t-on ? Psychiatre, psychothérapeute, psychologue. D'autre part, compte tenu du fait que 25% des hommes et 30% des femmes vont souffrir un jour ou l'autre dans leur existence de troubles
c'est
psychiques,
énorme, ouais.
Il est bien évident que la psychiatrie ne peut assumer tous ces cas, plus ou moins importants d'ailleurs. Le plus souvent, il s'agit de dysfonctionnements et de difficultés à vivre, et ce livre est conçu comme une pédagogie sur un sujet très concernant, un outil pour tous ceux qui veulent avoir un éclairage sur leurs problèmes ou leurs difficultés à être. À titre d'exemple, prenons le trac qui nous concerne tous.
Mais oui, exactement. Qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ça?
Alors, déjà, on déculpabilise. Ça doit vous dire quelque chose, Eva. On surestime pas les enjeux, parce que c'est pas non plus la fin du monde. On prépare soigneusement, ça je crois que tout le monde, vous le savez, et on utilise la respiration comme un calmant. Alors, il est rare que les ouvrages de vulgarisation psychiatrique ou psychologique soient faciles d'accès, mais en l'occurrence, ce livre est facile à lire et il pourra vous être utile dans la vie de tous les jours, puisque nous sommes tous des névrosés qui signent.
Merci, vous le dites. On vous redonne le titre de ce livre du professeur Antoine Pellissolo. Vous êtes votre meilleur psy et c'est édité aux éditions Flammarion. Merci, docteur Richou.
Europe 1.
Il est 5h42, Eva Rock. Vous écoutez Debout les copains, édition du 5 juillet 2019. 2 heures pour s'informer, emmagasiner quelques conseils culture. Pour mieux les partager par la suite, vous serez servi avec Vendredi des bons tuyaux. Mais avant, un titre de 2014, la musique idéale pour bouger sur le dance floor. Céline Dacosta, David Guetta est sur Europe 1 avec Dangerous.
Ah oh ouais.
You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight.
À l'heure de la musique électro avec David Guetta.
Il est 5h46.
Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Eva Roch.
Les candidats du bac seront-ils tous fixés sur leur sort aujourd'hui? Le ministre de l'Éducation promet que oui, malgré un mouvement de grève de certains correcteurs. Selon Jean-Michel Blanquer, environ 0,3% d'entre eux n'ont pas rendu les copies ou communiqué les notes. 30 000 copies manqueraient sur un total de 4 millions. Toujours à propos du bac, deux candidats étaient toujours en garde à vue dans l'enquête sur les soupçons de fuite des épreuves de mathématiques des séries générales. Deux nouveaux suspects, un homme et une femme de 37 ans, ont été interpellés et placés, eux aussi, en garde à vue. Et puis, dernier jour du procès France Télécom, conclusion dans quelques jours par les plaidoiries de la défense. Cet après-midi, ce sera l'heure du réquisitoire. D'anciens dirigeants sont à la barre pour leur management de l'époque, jugés pour harcèlement moral 10 ans après 19 suicides dans l'entreprise, dans un contexte de restructuration.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 5 juillet 2019. Et avant de découvrir les conseils culturels de vendredi, les bons tuyaux, détour par l'hippodrome de Cabourg, c'est presque romantique. Bonjour José Coves.
Bonjour Eva. Cabourg, première ce soir sur l'hippodrome. 14 trotteurs sont au départ de la troisième course, mais 5 priorités, numéro 12 d'Acero. Il offre toutes les garanties du bon favori. Avec le 2 Dixie Madrid, il y a du pour à Cabourg-Hilbourg, et il y a du compte, José. Elle est instable. Le 4 Dauphine de Clessy, parce que son retour en forme arrive au bon moment. Jugé sur ses meilleurs titres, le 7 Danzo Montaval peut tous les battre. The Lover, le numéro 9, visera plutôt une petite place. En cas de défaillance, le 6 Daddy Cut, on lui enlève ses fers pour la première fois, cela devrait lui donner des ailes. Le 13 DS de Guéron, aux fins de course spectaculaires, et enfin le 10 Domingo Bello, pour sa constance. Mon ticket pour la troisième course vers 20h15, d'abord le 12, le 2, le 4, le 7 et le 9, et ensuite le 6, le 13 et le 10.
José, si D'Acero le 12 offre toutes les garanties, pourquoi aller voir ailleurs ?
Bien sûr, le cheval de base, c'est D'Acero le 12. Il ne cesse de poser sur la photo finish. C'est toujours en juillet qu'il est à son meilleur, alors que face à lui, certains de ses adversaires peuvent péter un plomb. Eva, oui. Je reste à votre écoute, vous êtes le bon sens tout près de chez moi.
Et José, je voulais juste vous dire un immense merci d'avoir passé cette année avec nous et d'avoir surtout joué le jeu du direct. Tous les matins, c'est vous vrai. Étiez avec nous en direct et c'était un plaisir d'entendre votre voix et celle de votre fils aussi. Et on vous embrasse très fort, toute l'équipe vous fait des bisous.
Au revoir les bluebells.
Merci José Gomez.
Merci. Il est 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Eva Roch.
Et vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Deux heures pour se réveiller, s'informer, faire le plein de bonnes ondes aussi grâce à l'équipe de Debout les copains. Et comme chaque jour, on ne dira pas non à une bonne dose de culture. Avec Anne Le Gall pour les écrans, Clément Le Saffre pour trois applications relatives au Tour de France et Mathieu Charrier. Mathieu qui aime chanter ou pas.
Yeah, yeah, yeah. You make me...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je ne sais pas
si c'était du dégoût de nous entendre chanter.
Non, jamais de dégoût en vous voyant.
C'est brillant, nous entendant chanter, c'est pas pareil. Mathieu Charrier, pendant toute l'année, le vendredi, vous nous avez conseillé des bandes dessinées et vous nous proposez de revenir aujourd'hui sur les meilleures, celles que l'on peut glisser dans sa valise pour les vacances. Exactement. Et on va commencer par Trois Polars.
Allez, prenez vos stylos. D'abord, les brûlures chez Bambou Édition. Vous en rappelez peut-être, j'en avais parlé avec l'inspecteur Hassan, que ses collègues surnomment Nutella parce qu'il avait gagné dans un concours son poids en pâte à tartiner et qui va enquêter avec son collègue Light, c'est son surnom, sur des femmes assassinées dans une station balnéaire. Les dessins et surtout la colorisation sont absolument magnifiques. Ensuite, vous avez les bijoux de la Kardashian qui revient sur ce célèbre vol de bijoux de Kim Kardashian, séquestré quand même dans la chambre de son hôtel à Paris avec nos trois braqueurs venus et reparti à vélo, tout simplement. Et la police française qui avait alors des moyens complètement illimités pour enquêter. Enfin, Cassandra Dark, signée Posy Simons, qui est dessinatrice au Guardian, sur cette londonienne acariâtre à la tête d'une galerie d'art qui se retrouve mêlée à un trafic de faux tableaux et d'armes. C'est so British et on adore.
Et puis, vous nous avez aussi parlé de trois BD de reportage.
L'art du sushi, ça va nous donner faim par Frankie, qui s'est rendu pendant plusieurs semaines au Japon et nous raconte l'histoire de cet art, car c'est vraiment un art, le sushi, loin des menus B6, C4 ou Chirashi.
B6 pour moi.
Mais enfin, B6, oui, avec des brochettes. On y parle aussi de saké avec à la fin des recettes, donc pour l'été c'est parfait. Ensuite je vous avais conseillé Tête drôle de coco, dans laquelle Emily Gleeson raconte le quotidien de son frère autiste atteint du syndrome Asperger, mais jamais sans misérabilisme. C'est drôle, un dessin assez original, c'est à ne pas louper. Et puis c'était pas à proprement parler du reportage, mais moi ce que j'aime c'est Les Monstres, l'une des meilleures BD de l'année, qui nous plonge dans la misère de l'enfance de son auteur Émile Ferris. Différente, c'est griffonné sur des cahiers à spirale, cette bande dessinée elle est magnifique et c'est franchement incontournable.
Elle n'a pas été primée aussi à Angoulême?
Tout à fait. Faute
si je me souviens bien.
Vous suivez.
Ouais. Ouais, oui, je me souviens surtout de vos chroniques, c'est pour ça. Ouais. Et puis on finit avec trois BD d'humour, hein, Mathieu.
Alors d'abord, Open Bar de Fab Caro, vous savez, succession de petites histoires. Par exemple, ses amis à table avec l'un d'eux qui s'écrit les bougnoules, je les foutrais tous dans un charter et hop. Et sa femme qui se tourne vers lui, mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, il lui dit, tu m'as dit qu'on dînait chez un raciste. Mais non, un graphiste, voilà, c'est de l'humour absurde, politique, ça on adore. Le foot, signé Bastien Vivès, BD dans laquelle il se moque gentiment des fans de ballon rond. C'est encore d'actualité avec le mondial féminin. Là, c'est sous forme de mini-histoires, il y en a 26. Et puis les True Stories, histoires vraies en français de Derf Bark Derf, qui moque la société américaine dans des petites histoires. Il y en a 200 dans le livre, comme ce SDF qui demande une pièce à un jeune homme qui attend le bus. Il n'en a pas, il lui tend des pastilles à la menthe. Le SDF le remercie, tourne les talons, mais finalement, il lui recrache à la figure. Trop mentholé. Voilà.
Merci Mathieu, merci pour les conseils ciné et BD. Vous chantez bien Mathieu.
Ouais. Ouais, c'est ma qualité principale.
Allez, on va changer d'univers avec vous Clément Le Saffre. Demain c'est le départ du Tour de France depuis Bruxelles. Mais avec vous ça ne se passe pas que sur les routes ou à la télé.
Ouais, vous commencez à me connaître Eva, je ne peux pas me passer de mon téléphone, j'ai toujours sur moi, mais je suis aussi depuis tout petit un suiveur du Tour de France.
Alors, ah bon
et ouais,
ah, je ne vous imaginais pas en train de regarder le Tour de France.
Avec mon grand-père on regarde le Tour de France.
Ah, génial.
Et vous alors, pédalez?
Mais oui. Non, il regarde.
Ça m'arrive,
ah,
j'ai un vélo,
vous
aussi.
Vélo
alors,
aussi. En plus du foot.
Je ne fais pas 180 bornes par jour, hein, je préfère le dire. C'est plus modeste. Donc pour concilier ces deux passions, j'ai donc l'appli forcément officielle du Tour de la Grande Boucle. On y trouve toutes les infos en direct sur la course, les équipes, les coureurs, le classement en temps réel. C'est hyper pratique quand on est comme moi sur son canapé et qu'on a oublié. On s'est endormi une petite heure par exemple. Et pour ceux qui ne peuvent pas regarder une étape, il y a aussi des lives qui sont écrits, ce qui permet de rattraper ou par exemple quand on est au travail. Et puis ceux qui ont la chance d'aller sur les routes, eh bien, ils peuvent anticiper avec l'appli le passage de la caravane. Et ça, c'est essentiel. Bref, c'est une appli indispensable.
Maintenant qu'on est bien renseigné, on pourrait peut-être se risquer à quelques pronostics.
Ouais. Et allez, cette année, on se dit, c'est la bonne. Hein. On se dit, un Français va enfin l'emporter à hein, 32 ans. Je crois que Bernard Hinault attend un successeur.
Donc, tous les bons sont absents. Alors, oui.
Bah, exactement. Faute de mieux. Donc le pari est un peu risqué. J'ai quand même pas envie de vous faire perdre tout votre budget vacances. Donc je vous conseille le site Fanta Cycling. Ici, on parie juste pour le plaisir sur chaque étape. Comme ça, entre amis. C'est amusant, ça ne coûte rien. Et on peut même aller un peu plus loin en créant sa propre équipe virtuelle. En fait, on choisit 9 coureurs parmi les 176 au départ. C'est un peu comme Mon Petit Gazon pour ceux qui connaissent pour le foot, mais cette fois pour le vélo. Le budget est limité, donc il faut mélanger des stars et des inconnus en cherchant la petite pépite. Leur performance en vrai sur la route du Tour nous rapporte des points, ça définit un classement. On peut inviter ses amis, créer une ligue, et il y a même des lots à gagner.
Et si on veut revivre le frisson de chaque étape, il y a le jeu officiel du Tour de France 2019.
Hein. Oui, c'est un jeu qui est développé par un studio français, c'est le studio Cyanide, c'est sur PS4 et Xbox One. Pour les connaisseurs, c'est une variante de Pro Cycling Manager, qui est un jeu de gestion, c'est la référence des jeux de cyclisme. Alors là, c'est plus accessible. On est vraiment plus dans le plaisir de jouer simplement des courses, de disputer des étapes. Donc là, on peut prendre le Tour de France, on choisit une des 21 étapes, ou alors toutes les étapes. On part avec son vélo, son maillot, on fait l'étape de long en large, on peut accélérer le temps si on veut, évidemment. Il faut être honnête, le jeu n'est pas très très beau, c'est pas un jeu magnifique à regarder, mais on prend un vrai plaisir à disputer un sprint massif, jouer des coudes, ou alors tout simplement attaquer dans le Tourmalet pour aller chercher le maillot jaune.
Et alors si vous êtes fan du Tour de France, toutes les infos elles seront aussi sur le site europe1.fr.
Et c'est même dès maintenant.
On va suivre évidemment, d'abord on retrouvera toutes les infos que vous venez de nous donner, et puis toutes les infos du Tour de France pendant 3 semaines, vous les retrouvez sur le site internet avec toute l'équipe du service des sports. Et bien Anne Le Gall, on va continuer d'ailleurs à parler du Tour de France, mais avec vous ce matin, mais alors sur les écrans autrement en fait. Hein.
Exactement. En écho à la chronique de Clément Le Saffre, je vous propose de tester vos connaissances sur l'histoire de la Grande Boucle grâce à un quiz vidéo de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est très ludique, vous avez 12 questions sous forme de QCM et la bonne réponse est illustrée par des images télé d'archives. Alors premier exemple...
Il va gagner Clément là avec votre quiz.
Alors Clément, qui a remporté le premier Tour de France en 1903? Il y a trois options.
J'étais pas sur mon canapé.
Henri Cornet, Lucien Potier ou Maurice Garin.
Lucien Potier,
j'aurais dit aussi.
Et on va voir, et on écoute la réponse.
À 15h16 précisément, à la maternité des grands événements, est née la Grande Boucle, et le Français Maurice Garin en sera le premier vainqueur.
Vous l'aviez dit?
Mais j'ai dit
c'est une d'après ça?
Non, elle l'avait pas dit.
Si, j'ai dit Maurice.
Ah bon?
C'est parti de ces gens qui disent après que je l'avais dit.
Alors, c'est effectivement Maurice Garin. Alors, le commentaire n'est pas d'époque, hein, mais vous avez les images en noir et blanc de cette première arrivée du Tour de France. Autre question, en 1978, les coureurs se sont levés à 5h du matin pour effectuer 2 étapes dans la même journée. Comment ont-ils manifesté leur mécontentement? Ils ont brandi un réveil, ils ont terminé l'épreuve à pied, ou ils ont chanté, il est 5h, Paris s'éveille.
Chanter, c'est sympa. Ouais,
la chanson, moi, je pense.
Je dirais à pied.
À pied, la réponse, la voici.
Les coureurs se sont fâchés pour la première fois depuis la création du Tour de France.
Ils n'ont pas franchi la ligne d'arrivée sur leur vélo, mais à pied, comme de simples cyclotouristes qui, au terme d'une randonnée, cherchent le petit café, ils pourront se restaurer.
Et alors là,
les coureurs n'admettent plus d'être pris pour de simples pions, de vulgaires hommes sandwich. Ils refusent, disent-ils, de se coucher à 23h et de se lever le matin à 5h, et tout cela uniquement par caprice et intérêt des organisateurs.
Oui, Mathieu Charrier, vous avez marqué un point. C'est vous qui avez gagné, c'est bon,
ouais, c'est bon. Ouais. Merci.
D'accord. Il y a aussi des questions sur l'apparition du dopage, les fantaisies de Lance Armstrong, des chutes plus ou moins dramatiques. C'est assez accessible, hein, puisque sans réviser, moi j'ai obtenu un score de 9 sur 12, et pourtant je ne connais pas grand-chose au cyclisme. Puis de toute façon, le plaisir de ce quiz, franchement, ce n'est pas le score, mais le plaisir de voyager dans le temps grâce aux archives. Pour retrouver ce questionnaire, vous tapez quiz.ina.fr et Tour de France. Je signale que vous avez, sur le même modèle de QCM, vous avez aussi le Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Roland-Garros ou les différentes élections présidentielles.
Eh ben merci beaucoup, ça me donne très envie d'aller faire un petit tour sur le site de l'INA. Le problème, c'est que quand vous y allez, vous passez des heures, c'est impossible à en sortir. Merci beaucoup à vous trois, merci pour toutes ces prescriptions que vous nous avez apportées toute l'année, toutes ces infos qui nous enrichissent au quotidien. Et je suis sûre qu'on se retrouvera d'une façon ou d'une autre à la rentrée, les amis. Merci beaucoup.
Il est 5h57, Eva Roque.
À suivre dans Debout les copains, la météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de...
Céline Kalman. Il est 5h58, Eva Roque.
Et il me semble bien que c'est l'heure de la météo avec vous, Céline.
Oui,
il fait beau.
Exactement.
Il fait chaud.
C'est vrai. On va parler des bonnes nouvelles, puisque ce vendredi s'annonce estival en tout point. Soleil, vous l'avez dit, chaleur pour cet après-midi, puisqu'on va très souvent dépasser la barre des 30 degrés, 27 à 38 degrés du nord au sud. Par contre, on en profite, hein, parce que ce week-end, ça va se gâter avec des orages qui arrivent. D'abord pour la moitié sud samedi, et ensuite pour l'est et un petit peu pour la moitié nord dimanche. En attendant, on en profite. Soleil aujourd'hui.
Mais des températures qui sont pas mal.
Bah oui, des températures 27 à 38 degrés. On en attend 31 à Paris aujourd'hui.
Merci beaucoup, Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.